Voilà arrivé au soir du 15 juin et nous sommes toujours dans notre étude sur ce thème que nous enseignent les Écritures au sujet de la résurrection. Hier soir, nous avons eu ici le merveilleux accueil du Seigneur lui-même, nous donnant la définition extraordinaire de la résurrection. Et nous voudrions que vous vous souveniez de cela. Quelle a été la définition de Jésus dans ses premières paroles hier soir ? Moi, je suis la résurrection et la vie. Voilà la définition de la résurrection faite par le Seigneur lui-même. La résurrection, ce n'est pas quelque chose, une doctrine particulière, c'est une personne, c'est le Seigneur lui-même. Et il ajoutait, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à toujours, ne mourra point à jamais. Donc, il est question que tous les hommes doivent mourir, mais Jésus nous dit que ce n'est pas pour toujours. Puis, nous avons parlé hier soir du geste de Jésus. Et je voudrais croire que vous vous êtes laissé faire et qu'il a posé la main sur vous en vous disant, ne crains point, je suis le premier, je suis le dernier et le vivant. J'étais mort, donc il peut nous parler de la résurrection, parce que pour parler de la résurrection, il faut avoir passé par la mort. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Puis, il a ajouté qu'il tenait les clés de la mort et du séjour des morts. Qui? Non, c'est pas de l'enfer qu'il est question. Oui. Mais il a tout expié sur la croix. C'est pas en enfer qu'il est allé expier quelque chose. Il est descendu, oui, puisque dans l'épître de Pierre, il l'a dit, mais pas pour évangéliser les morts, mais pour annoncer la grande nouvelle que la mort était vaincue, parce qu'il allait en ressortir. Il est entré dans la mort, mais il en est ressorti victorieux.
Lorsqu'il a été glorifié, pour ressusciter, est-ce qu'il a dû être glorifié en haut dans les cieux, ou parce qu'il a été glorifié ?
Il a été glorifié par sa résurrection, et le Seigneur a manifesté en envoyant le Saint-Esprit qu'il l'avait reçu dans la gloire, dans le chapitre premier à la Pentecôte, n'est-ce pas, des Actes.
Parce que dans Jean 17, on a fait, Jésus lui dit, parce que Marie vient pour l'ajouter, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, bien, parce que toute l'œuvre du salut devait s'accomplir après qu'il ait donné toutes les preuves de sa résurrection. Et la preuve de sa résurrection, Dieu allait la donner quand son Fils serait monté dans la gloire, n'est-ce pas, d'où il était venu. Et la promesse du Père s'accomplirait. À ce moment-là, et à la Pentecôte, les disciples ont eu la certitude que l'œuvre était parfaite.
Mais quand il est monté après les 40 jours ou durant les 40 jours?
Non, il est monté après les 40 jours.
Okay.
Il est monté après les 40 jours. Mais écoute, à l'ascension, il est monté. Ça, nous le savons par l'Écriture. Oui, mais ces choses-là, nous ne voulons pas spéculer sur ce qui n'est pas dit dans l'Écriture. Nous en restons, mais il était toujours avec son Père. Quand il était sur la terre, il était dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il était sur la terre, mais dans ses pensées, il était déjà avec son Père. De sorte qu'il n'y avait pas de séparation. C'est nous qui compliquons les choses. Mais soyons simples et puis restons-en à ce que nous dit la parole, puis ne donnons pas plus d'explications qu'elle n'en a données. Parce que ça vous édifie en quoi cela? Ce qui compte, c'est que nous sachions ce qui s'est passé. Alors, nous revenons vraiment à ce sujet. Nous avons vu dans, parce que le thème c'est donc la résurrection, nous en restons là. Et ce que vous ne comprenez pas encore, le Seigneur vous éclairera et demandez lui qu'il vous donne sa lumière et une conviction. Dieu notre Père, nous avons besoin de ta grâce et nous ne voulons pas commencer par nous poser toute espèce de questions. Nous voulons d'abord nous laisser instruire par ce que nous disent ces épîtres. Et nous voulons te demander que tu nous donnes d'être assez simples pour recevoir ton enseignement en Jésus. Amen. Alors c'est évident que nous ne pouvons pas nous arrêter sur tous les textes. Je vous ai dit que dans l'évangile de Matthieu, nous avons pu prendre que quelques textes, puisqu'il y en a 18. Dans l'évangile de Marc, il y a 10 textes concernant la résurrection. Dans l'évangile de Luc, il y en a 14. Dans l'évangile de Jean, il y en a 13. Ce qui fait 45, donc dans les épîtres. Dans les actes des apôtres, il y avait 23 textes que nous aurions pu examiner si nous en avions eu le temps. Et maintenant, dans les épîtres, de Paul, il y en a un grand nombre. Nous ne pouvons pas nous arrêter sur tous ces textes. Vous avez pris l'épître aux Romains. Vous vous arrêtez au verset 4. Depuis le verset 3 déjà, il concerne donc l'évangile, son fils, le fils de Dieu, né de la postérité de la vie selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez, c'est déjà ici la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour annoncer, pour amener à son nom, en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Donc, par la résurrection, Dieu a donné à connaître que Jésus, que l'on avait connu comme homme, était vraiment son fils, le fils de Dieu. Il était Dieu, mais qui s'était fait homme. Ensuite, dans cet épître aux Romains, nous irons au chapitre 8 qui nous affirme que celui qui a ressuscité le Christ nous ressuscitera aussi par une résurrection d'entre les morts. Vous avez cela donc au chapitre 8. Verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc c'est clair qu'il y a une résurrection pour ceux qui ont l'esprit, par son esprit qui habite en vous. Donc nous ne resterons pas dans la mort. Il y aurait d'autres passages dans l'Épître aux Romains, en particulier celui que je vous ai déjà cité au chapitre 10, qui nous montre que pour être sauvés, ce qu'il nous faut, c'est verset 9 du chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc, toute cette épître aux Romains affirme la résurrection de Jésus d'une part et notre résurrection d'autre part. Nous arrivons à l'épître aux Corinthiens. Et là, nous irons directement au chapitre 15 de cette épître aux Corinthiens. Chapitre que nous lirons. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Vous voyez que les termes ont une importance et doivent retenir notre attention. Dans les termes où je vous l'ai annoncé, nous avons vu dans les évangiles que Jésus disait qu'il parlait selon ce que le Père lui avait dit et qu'il enseignait comme le Père le lui avait montré. Donc, il était dans une dépendance totale, et Paul a été dans une dépendance totale pour annoncer l'évangile aux Corinthiens. Et la sécurité des Corinthiens, c'était de retenir cet évangile dans les termes qu'ils avaient entendus. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est pour ça qu'il nous faut toujours revenir à la parole. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et les Écritures, c'était quoi? L'Ancien Testament. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ce que nous avons vu. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis aux apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, c'est-à-dire, au fond, c'est l'être qui vient avant le temps. Paul ne prend la dernière place, car je suis le moindre des apôtres. Ils n'avaient pas connu le Christ selon la chair. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Lui, il s'est laissé, quand il est tombé, il a laissé la main du Seigneur sur lui, ce que nous désirions pour chacun de nous hier soir. La main du Seigneur a été sur lui, et nous voyons ce qu'il est devenu. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Donc, dans toute cette partie, l'apôtre souligne les gens qui ont pu témoigner, les noms des gens qui ont pu témoigner de sa résurrection. Puis, au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous voyez qu'il y avait déjà des doutes dans cette église. S'il n'y a point de résurrection des morts, quelle est la conséquence? Christ non plus n'est pas ressuscité. Et alors, Paul nous montre que si Christ n'est pas ressuscité, il montre sept choses qui en seraient les conséquences. Notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Donc, est-ce que nous sommes sauvés si Christ n'est pas ressuscité? Non. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc la résurrection du Christ est la preuve qu'il y a une résurrection. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà les sept conséquences que vous pouvez trouver si le Christ n'est pas, s'il n'y a pas de résurrection. Mais maintenant, verset 20, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, il est le premier des ressuscités d'entre les morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'était qui? Adam. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, ou d'entre les morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivent en Christ. Mais chacun en son rang. Alors donc, il y a des rangs de résurrection. Tous ne se passent pas en même temps. Le premier, c'est Christ, comme prémisse. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Quand est-ce que ça doit se produire? À l'enlèvement de l'Église, des croyants. Puis, au verset 24, ensuite viendra la fin. Donc il y a Christ d'abord, Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Puis ensuite, il y a ceux qui sont du Christ à sa venue, c'est les croyants de l'Église. Et puis, viendra la fin, c'est la résurrection finale de tous les morts. Donc, c'est très clair qu'il y a, que ce n'est pas tous ensemble au même moment que les hommes ressuscitent. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne. Est-ce que le Seigneur a déjà régné? Non. Donc il faut qu'il règne. C'est ce qui va venir. Il faut qu'il règne. Jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Alors, pour que les ennemis soient sous ses pieds, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? Qu'il vienne pour juger. Donc, ce qui va venir sur le monde qui ne croit pas, eh bien, c'est le jugement. Il faut qu'il règne. Mais, alors, nous pouvons étudier ce qu'est ce règne dans l'Écriture. Ce sera un règne de justice, un règne de paix, ce que le monde ne connaît pas et n'a jamais connu. Parce que jusqu'à maintenant, tous les règnes des hommes, quels qu'ils soient, sont comparés à des règnes de qui? De bêtes, n'est-ce pas? Et la plus vilaine bête, c'est celle qui va venir. La bête la plus atroce, c'est celle qui vient. Et nous préparons, on le voit, le règne de la bête. Tout ce monde, même religieux, prépare le règne de la bête. Vous voyez, à la télévision, on ne voit bientôt plus que des bêtes qui parlent, n'est-ce pas? On habitue les gens à cela. On va vers le règne de la bête. Et ce qui va venir, c'est le jugement. Dieu, en effet, verset 27, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Christ, mais lorsqu'il dit que tout lui est soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Quand le Fils aura régné, après avoir soumis toutes choses, il remet le royaume à Dieu le Père. Verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Nous passons là-dessus, parce que nous ne pouvons pas entrer dans ces détails et dans les coutumes qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et alors, on arrive au verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et si tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et il y a des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, mais une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, c'est ce qu'il y a à la mort, hein. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Donc, à la résurrection, le corps que nous aurons est un corps incorruptible, qui ne peut plus se corrompre. Et puis, à la résurrection, notre corps qui a pu être misérable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, Et comment ressuscite-t-il? Plein de force. Il est semé corps naturel, et il ressuscite comment? Corps spirituel. C'est un corps, mais un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Dans le corps spirituel, c'est un esprit vivifiant que nous aurons. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, c'est ce que nous avons été en Adam. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc nous serons comme qui? Comme Jésus, identifié à Jésus. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Qu'est-ce que c'est que la chair et le sang? C'est nous les vivants. On est fait de chair et de sang. On ne peut pas entrer avec la chair et le sang tels que nous sommes dans le royaume. Alors, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra ce que l'apôtre va nous montrer un peu plus loin. Et puis, la corruption, qu'est-ce que c'est que la corruption? Ce sont les morts. Ceux qui sont morts, eh bien, leur corps s'est corrompu. C'est ce que nous savons. Maintenant, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Je pense que vous comprenez très simplement ces choses. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, là, dans ce passage, nous voyons que Paul parle comme s'il espère être lui-même vivant au retour du Seigneur. C'est ce qui caractérisait l'Église primitive. Il n'y avait pas de date, mais on attendait le Seigneur. Le Seigneur avait promis qu'il reviendrait, et dans l'Église primitive, on attendait le Seigneur. Et ça ne les empêchait pas de travailler pour lui. Alors voilà ce que nous trouvons dans la première aux Corinthiens, mais nous irons directement à l'épître aux Thessaloniciens, et qui nous donne encore quelques renseignements sur cet événement qui va se produire. Thessaloniciens chapitre 4, nous avons déjà étudié cette épître. Au verset 13e, l'apôtre Paul dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés, donc ceux qui sont. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. rester pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et qu'est-ce qui se passera? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour rester dans les airs, qu'est-ce que vous pensez? Non. Qu'est-ce que Jésus a promis dans le chapitre 14 de Jean? Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Et je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. Et il a dit d'une façon très claire à son Père dans le chapitre 17 de Jean, « Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, vous y soyez aussi. » On a pu dire que c'est le seul « je veux » que Jésus a dit. Et ce « je veux », il l'a dit pour nous. C'est merveilleux. La volonté du Seigneur, c'est de nous avoir là où il est. Et quand nous serons là, nous aurons été rendus semblables au Seigneur. Alors, en attendant que cet événement se produise, et c'est le grand événement que nous attendons, vous pouvez ne pas l'attendre. Mais alors, vous n'avez pas une bienheureuse espérance. Est-ce que nous attendons le Seigneur? Est-ce que nous serions heureux qu'il revienne? Ou bien vous désirez continuer de vivre sur la terre? Qu'est-ce qu'il faudra pour que les gens crient « Viens Seigneur Jésus » Ça allait encore plus mal. Pour qu'on n'en puisse plus. Mais ce n'est pas cela qui devrait nous faire dire « Viens Seigneur Jésus ». Qu'est-ce qui devrait nous faire dire « Viens Seigneur Jésus » C'est l'amour que nous avons dans notre cœur pour lui, en réponse à tout l'amour que lui a eu pour nous. Mais on en est loin. On en est loin. On ne sait pas dire « Viens Seigneur Jésus ». On est encore tellement attaché aux choses de la terre, aux choses de ce monde. Eh bien, et que le Seigneur nous visite et nous donne d'être de ceux qui l'attendent. Vous avez considéré un peu les autres épîtres? Comment? La deuxième épître aux Corinthiens. Verset 1er du chapitre 5, nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, de quoi est-il question avec cette tente? De notre corps. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cet temps, dans notre corps, hein, désirant revêtir notre domicile céleste. Est-ce que nous avons ce désir? Ou bien, est-ce que nous trouvons non, nous voulons encore faire nos affaires? Nous gémissons dans cet temps, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est-à-dire, si nous sommes trouvés en vie et non pas nus, morts. Hein. Car tandis que nous sommes dans cet temps, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, on désire pas mourir, mais on désire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est pas la mort que nous attendons. Nous n'attendons pas la mort. La mort n'est pas une espérance en elle-même. Mais nous attendons ce revêtement spirituel, ce corps de gloire, et que nous pourrons avoir, même si nous ne passons pas par la mort. Parce qu'au moment de son retour, le Seigneur transformera nos corps de misère en la conformité du corps de sa gloire. C'est ce que vous avez dans une autre épître de Paul, l'épître aux Philippiens, puisque nous ne pouvons pas tout considérer, au chapitre 3 de l'épître aux Philippiens. Nous lisons ceci au verset 10. Ou au verset 7, déjà. Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde ces choses comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est donc toujours cette résurrection d'entre les morts qui était devant l'apôtre Paul. Et quand est-ce que cette résurrection aura lieu? Ben, à son retour. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit Paul, verset 12, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'il demande au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il attendait le Seigneur, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On met sa gloire dans ce qui fait notre honte. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ça nous touche. Mais nous, nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fera? Verset 21. Il transformera le corps de notre humiliation, ce corps dans lequel nous souffrons, où nous sommes humiliés, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par quel pouvoir? dans le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est cela que nous attendons. Quand vous lisez maintenant l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, il est dit au verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc, nous retrouvons l'ordre du chapitre 15 des Corinthiens. « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » Alors, c'est le Seigneur qui est le premier. Puis au chapitre 2, ce passage que je vous ai déjà cité, verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ce qui veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et au chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort, et votre vie est cachée dans Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la vie. » Donc, nous l'attendons. Et si nous allons plus loin, encore juste dans les épîtres à Timothée, où l'apôtre fait en quelque sorte son testament spirituel, je lis dans la deuxième épître, comment? Verset 8, oui. Chapitre 2. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Et dans le chapitre 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils leur détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et qu'est-ce qu'il attend? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qu'est-ce que c'est son avènement? C'est sa venue. Alors nous en restons là pour ce soir. Est-ce que nous sommes de ceux qui aimons son avènement? Demain matin, nous vous donnerons l'occasion de nous dire ce que vous, vous avez vu dans cette soirée. Au terme de cette journée, nous voulons te demander que tu nous accordes aux uns et aux autres une nuit où toi-même tu vas nous parler, nous rappeler ces vérités que nous venons de lire dans ta parole. Nous te remercions parce que c'est ta parole et non pas nos pensées que nous voulons mettre en avant, mais nous voulons te demander que nous soyons attentifs à ce que cette parole nous dit. Car le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Et nous voulons te demander que tu nous prépares pour ton retour, pour cette venue qui peut se produire même peut-être cette nuit, ou que tu nous trouves prêts et heureux de penser que si tu venais cette nuit, nous serions pris auprès de toi. Que cette grâce nous soit accordée en ton amour. Amen. Mes chers amis, en ce matin du 16 juin, j'aime à vous saluer dans le nom de celui qui doit venir, littéralement de celui qui vient et qui n'est autre que celui qui est la résurrection et la vie. La résurrection pour tous ceux qui sont morts ou qui mourront avant sa venue, et la vie pour ceux qui seront trouvés vivants à son retour. Il n'y a pas de retard, comme le pensent certains. Si le Seigneur n'est pas encore venu, l'apôtre Pierre nous dit que c'est parce qu'il voudrait que tous parviennent à la repentance. Non pas simplement que tous soient sauvés, puisque nous savons que ceux qui ne veulent pas du Seigneur ne peuvent pas être sauvés, mais que tous viennent à la repentance. Et cela m'a amené à cette pensée que si le Seigneur n'est pas encore venu, c'est que il ne nous trouve pas prêts pour le rencontrer. De sorte que ce qui peut hâter son retour, c'est une Église qui se repent. Et si vous lisez, comme nous allons le faire ce matin, le livre de l'Apocalypse, vous voyez que sur les 7 églises dont il est question et qui résument au fond toute l'histoire de l'Église sur la terre, 5 sont appelées à se repentir. Repends-toi, repends-toi. Car si nous nous plaçons en face de la parole, nous réalisons bien que nous sommes infidèles, que nous ne marchons pas selon les pensées du Seigneur, que trop souvent nous sommes préoccupés avant tout des choses de la terre, alors que l'une des paroles du Seigneur que nous connaissons pourtant, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez comment on chante ça très souvent, des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs qu'on répète indéfiniment. Comme je l'ai souvent rappelé, c'est très facile de s'exalter avec un petit cœur. C'est pas le réveil, ça. Puis alors, voilà, ensuite, on monte donc très haut, pendant le chant, puis dans la vie pratique, bien on retombe. Ce que le Seigneur nous demandait, son grand commandement, c'était de nous aimer les uns les autres. De quelle manière? Comme lui nous a aimés. Et puis il ajoutait cette parole aussi, que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Ses commandements qui ne sont pas pénibles. Alors je demande à Dieu qu'en cette fin de semaine où je n'ai pu vous apporter rien de nouveau, j'en suis parfaitement conscient, vous attendiez peut-être certaines révélations, je n'avais pas de révélations à vous donner, j'avais simplement comme mission de vous rappeler très humblement et de me rappeler à moi-même la place qu'occupe la résurrection dans les Écritures. Et nous avons pu constater que cette résurrection était déjà dans l'Ancien Testament. Nous avons pu prendre conscience de la place qu'elle occupait dans l'enseignement du Seigneur, dans les Évangiles. Puis, dans les Actes, ça a été le message des apôtres qui ont été témoins de sa résurrection. Puis hier soir, nous avions à considérer les épîtres de Paul. Évidemment, il y a 53 passages dans les épîtres de Paul qui nous parlent de la résurrection, de sorte que on a pu au fond qu'effleurer le sujet. Puis Il y a ensuite ces épîtres de Jacques, après les Hébreux, Jacques, les épîtres de Pierre, et puis celle de Jean, en attendant de terminer par l'Apocalypse. Alors, ce que je veux croire, c'est qu'au moins vous aurez pris conscience que la résurrection a une place importante dans les Écritures. Et je demande à Dieu que vous puissiez quitter ce lieu en ayant dans vos cœurs cette bienheureuse espérance. Non, nous n'attendons pas la mort. Nous attendons Christ. Nous attendons quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est la résurrection. Il est la résurrection. Et pour nous, si nous sommes vivants à son retour, il est la vie. Mais subitement, à une heure que nous ne connaissons pas, le Seigneur va venir. Il est déjà celui qui vient, mais il viendra un jour, il sera venu. Est-ce que nous sommes prêts pour ce retour? Est-ce que vraiment il y a de la joie dans nos cœurs? Parce que instantanément, nous serons auprès de lui, et là, nous aurons cette révélation parfaite de ce qu'il est et de l'amour qu'il a eu pour nous, parce qu'il nous aura pris quand même, malgré toutes nos insuffisances, si nous avons cru en lui. Il nous aura pris, mais qu'est-ce que nous réaliserons? Mais que nous ne l'avons pas aimé. Et c'est cela la perte que nous aurons, quand tout à coup nous réaliserons, mais au fond, pourquoi ne l'avons-nous pas aimé comme nous aurions dû le faire en traversant ce monde? Comment est-ce que nous avons pu aimer un autre objet que le Seigneur Jésus? Car il est notre vie. Alors je demande à Dieu que par son esprit, malgré notre immense faiblesse, nous ayons pu être touchés par la grâce de Dieu qui nous replace en face de celui qui nous a tant aimé et qui nous examinera seulement, c'est le seul jugement pour le croyant, sur l'amour. Comme le dit saint Augustin, ce sera très simple, il nous demandera, as-tu aimé? Dieu notre Père, nous voulons te demander que dans ces quelques moments que nous passons encore ensemble, nous puissions te laisser nous parler et que nous soyons à l'écoute de ta parole. Oui, tu viens bientôt et nous voudrions être de ceux qui marchent maintenant à ta rencontre, libérés de tous nos soucis, puisque tu les prends sur toi, et que dans ces moments, nous puissions savoir, comme jamais nous ne l'avons connu, ce qu'est la grâce de Dieu, qui nous a sauvés, qui nous instruit, et qui nous fortifie et qui veut être pour nous parfaitement suffisant en toute chose. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous nous retrouverons, Dieu voulant, à 9h.